Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza. Bienvenue au studio, Lisa. Il faut que je m'habitue à Lisa. Comme très souvent, nous allons commencer avec un des participants à la flottille sur son bateau, Erol. Et donc, je vais essayer de l'appeler maintenant. J'espère qu'il est là. Allô, Erol? Allô, bonjour Erol.
Comment as-tu écrit là-dessus?
Salut Erol, tu es sur antenne.
Erol, t'es où?
Pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe, moi je vois Erol sur la caméra de son téléphone. Il sort maintenant de l'intérieur du bateau. Erol, tu nous entends? Allô?
Attendez, c'est bon, on va pas salir. Mais si, il y a fait des traces. Regarde, s'il te plaît. Regarde, s'il te plaît.
Allô, Erol? Allô, Erol, tu m'entends?
Pas loin? Non, mais si.
Si, sors.
En fait, c'est le moment de sortir. Lavez-vous.
Oui.
C'est le moment de
sortir. Lavez-vous.
Tout le monde, lavez vos pieds.
On va passer à autre chose parce que ça n'a pas l'air d'aller. Ok. Donc, on va passer au prochain sujet, parce que si Lisa est là, c'est aussi pour nous expliquer une manifestation qui aura lieu dimanche prochain.
Oui. Donc, on organise une manifestation le 3 mai. Ce dimanche, à 14h, à l'ambassade des États-Unis. Et après, on fait une cortège jusqu'à le Parlement européen.
Oui.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de changer un peu le discours sur ce qui se passe dans le monde. Donc, jusqu'au moment où on a vraiment essayé d'avoir plus de solidarité. Mais la solidarité est déjà là. Les gens sont derrière la Palestine, c'est très clair. Et donc, c'est que nos dirigeants, que les États-Unis et que l'Union européenne et le gouvernement belge qui ne veulent pas changer les choses, qui bougent pas. Et donc, d'abord on va dire à l'ambassade des États-Unis que voilà, on rejette leur guerre et leur politique de guerre, leur projet colonial et aussi leur intérêt dans l'Europe même, parce que c'est nos terres. Ici en Europe, il y a des bases américaines, ils pensent qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Mais c'est un peu pour annoncer qu'après tout ce qui s'est passé cette année, c'est assez clair les intentions des États-Unis. Et voilà, on rejette, on est des Européens. Je n'ai pas de vote en Washington, donc je ne sais pas pourquoi ils gèrent ma vie.
Oui, je comprends. Et c'est organisé par qui ?
Je suis avec une organisation qui s'appelle Global Solidarity Coalition. C'est avec des amis aux Pays-Bas. Donc il y aura aussi des gens qui viennent du Pays-Bas. Et c'est aussi par Justice sans frontières, une organisation pour les droits humains. Et donc le Global Solidarity Coalition, c'est une organisation qu'on a créée après que la guerre, après les bombardements sont commencés sur l'Iran. Et il y a beaucoup des Iraniens dedans qui sont contre l'impérialisme des États-Unis. Par rapport à leur opinion sur le gouvernement iranien, c'est assez varié. Donc, c'est vraiment un groupe très divers. Mais ils sont mis d'accord qu'en fait, ce qui se passe vraiment, réellement, c'est la guerre frontale, la guerre totale, la domination globale des États-Unis. Et voilà, on doit se résister.
Ok. Ben, ce que moi, je fais quand j'entends parler d'une manifestation, moi, je vais regarder sur Stud pour voir si je trouve quelque chose. Je n'avais trouvé rien. Mais c'est aussi parce que c'est annoncé dans une application.
C'est annoncé très large. Peut-être que je peux aussi l'ajouter sur Stud. J'ai aussi publié sur ProtestBase parce que... depuis 2 ans, moi et mon copain, on a essayé de créer une application pour trouver des manifs. Pas seulement des manifs, mais la base, c'est vraiment... c'est nous les dirigeants. Et donc, voilà, d'avoir ce pouvoir. Et donc, pour des manifestations, mais aussi des conférences, parce qu'il faut apprendre. Sinon, on ne fait pas de bonnes décisions. Et aussi des bénéfices, des événements de bénéfices, naturellement, parce que c'est vraiment très important qu'on soutienne nos frères et nos sœurs et nos camarades en Palestine, au Liban, et en Cuba, par exemple, et l'Iran. Et voilà. Et la dernière chose, c'est pour des actions, les actions publiques.
Donc, ça s'appelle ProtestBase.
ProtestBase, oui. Et donc, vous pouvez télécharger l'application depuis notre site web. C'est www.protestbase.be. Et donc, tu peux télécharger l'appli de là-bas. Et aussi, tu peux trouver la liste des événements là-bas aussi. Et si vous êtes organisateur, donc je vous invite de nous envoyer un message, soit par Instagram, soit un autre moyen, pour demander un login. Donc, j'ai seulement besoin d'un email et le nom de votre organisation et un peu une assurance que vous êtes une bonne organisation. Et donc, voilà, de là-bas, vous pouvez juste uploader vos propres événements. Donc, c'est juste une plateforme, un calendrier pour un peu faciliter la vie d'un activiste, comme on n'est pas toujours très organisé, je trouve. Comme communauté, donc c'est un peu... je voulais aussi aider tout le monde. C'est difficile pour moi pour choisir parce qu'il y a beaucoup des intérêts que j'ai. Et donc c'est aussi une bonne manière d'aider un peu tout le monde sans que je dois aller vraiment à fond pour tout le monde, quoi. Et aussi pour inviter des gens, s'ils sont super derrière la Palestine, peut-être ils voient aussi autre chose qui leur intéresse. Ils peuvent en prendre un peu sur des autres sujets. Et donc je pense que ça peut nous approcher. L'un à l'autre.
Ok. Mais je vois ici que Erol, sur son bateau, il bouge, donc on va de nouveau essayer de la voir. Okay. Allô, Erol, est-ce que tu m'entends? Allô? Allô, Erol? Non, ça n'a pas l'air de marcher, donc on va d'abord écouter une interview qu'on avait déjà fait au mois de septembre, avec Michel Stachewski, sur l'obsession sioniste se débarrasser des Palestiniens. Un instant.
Il y a interdit d'être ici. Hein.
Bonjour Michel Stachewski, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Alors, je suis un professeur d'histoire retraité. Je suis aussi l'auteur, entre autres, d'un livre qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce livre a été écrit et est paru juste avant les événements d'octobre 2023. Donc, c'est un livre qui s'intitule « Palestiniens et Israéliens ». Dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés, entrevoir demain, paru aux éditions du Cerisier, donc 2023. C'est un livre qui... C'est un essai historique qui reprend l'histoire du sionisme et des conséquences du sionisme pour les Palestiniens depuis le début. Et je l'ai écrit en pensant aux gens qui disent « c'est compliqué, on n'y comprend pas grand-chose ». Et je l'ai aussi écrit en pensant aux militants... qui manque d'outils et en particulier de profondeur historique. Voilà. Je suis aussi membre de l'Union des progressistes juifs de Belgique, une très vieille association juive non sioniste. Et je suis aussi membre d'une jeune organisation qui s'appelle l'Alliance juive anti-sioniste en Belgique, qui n'a pas encore 2 ans et qui, comme son nom l'indique, est une association qui regroupe des juifs anti-sionistes. Voilà.
Oui. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de cette obsession sioniste
qui est de se débarrasser des Palestiniens.
Voilà. Oui.
Donc, je vais vous faire une sorte de bref historique. Quoi. Parce que le nettoyage ethnique est un élément fondamental de la concrétisation du projet sioniste. Il s'agit d'une colonisation de peuplement avec le projet rare dans l'histoire des colonisations européennes de remplacer la population locale, c'est-à-dire les Arabes de Palestine, par des Juifs venus d'ailleurs, au départ principalement d'Europe. Donc je vais vous raconter brièvement, enfin disons un petit quart d'heure, cette histoire. Les premiers sionistes émigrent d'Europe vers la Palestine, qui faisait alors partie de l'Empire ottoman, vers 1880. À ce moment, ce territoire est peuplé d'environ 500 000 habitants, dont 85% de musulmans, 10% de chrétiens et 5% de juifs. Cette minorité juive autochtone ne se distingue des autres habitants de cette région que par sa religion. Leur langue usuelle est l'arabe palestinien. Ils n'utilisent l'hébreu ancien, que pour l'accomplissement de leurs rites religieux. Ils ne peuvent être qualifiés de sionistes car ils ne manifestent aucune aspiration à ne vivre qu'entre juifs et certainement pas à la création d'un État juif. Par contre, les premiers immigrants sionistes partagent tous le même projet de créer un État juif en Palestine. Mais ils sont divisés entre ceux qui sont prêts à engager à bas prix dans les entreprises qu'ils créent, que ce soit des entreprises industrielles, de commerce, agricole, etc., de la main-d'œuvre locale pour les fonctions subalternes. Et les dits sionistes socialistes qu'il exclut donc d'engager la main-d'œuvre locale au nom du refus de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce courant donc dit sioniste socialiste va bientôt dominer et pour longtemps ce qu'on appelle le yishuv, c'est-à-dire le yishuv veut dire peuplement en hébreu, le yishuv sioniste, donc la communauté sioniste. L'historien Henri Laurence note à leur sujet, je cite: le paradoxe historique vient de ce que ce sont les tenants de la lutte des classes qui introduisent le conflit national en Palestine. Cette situation de rivalité économique entre les deux mains d'œuvre, donc juive et palestinienne, s'accompagne d'un discours dépréciatif, voire franchement raciste, de la part des ouvriers juifs envers leurs concurrents arabes. Fin de citation. Dès 1901, sur décision du 5e congrès sioniste, est créé le Fonds national juif, en hébreu Keren Kayemet Le'Israël ou KKL. Ce sont les initiales. Son rôle essentiel sera de réunir des fonds pour l'achat de terres en Palestine, déclarées, je cite, propriété inaliénable du peuple juif. Je continue la citation. Afin de constituer une réserve foncière destinée à être affermée à bail héréditaire aux colons sionistes, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'œuvre arabe. Fin de citation. le déplacement forcé des paysans palestiniens non propriétaires des terres sur lesquelles ils travaillaient commence donc à petite échelle bien avant la création de l'État d'Israël. Je rappelle, le KKL est créé en 1901. Alors ici, je fais un saut dans le temps. En 1947, les Juifs ne constituent encore que moins d'un tiers de la population totale de la Palestine. En novembre de cette année-là, donc suite à la décision des Britanniques de quitter la Palestine qu'ils dominaient depuis 1920, la décision est prise par l'Assemblée générale de l'ONU, contre l'avis unanime des Palestiniens, de créer un, entre guillemets, État juif, c'est le nom officiel qu'on lui donnait, sur 56% du territoire de la Palestine. Et cette décision, bien qu'accueillie favorablement par les dirigeants sionistes, va cependant, de leur point de vue, les placer devant un problème redoutable. 45% des habitants du territoire qui leur est alors attribué, donc les 56% de la Palestine, sont des Arabes, musulmans et chrétiens. Profitant de leur supériorité militaire, ils vont, entre guillemets, régler ce problème en appliquant leur plan qu'ils ont appelé plan d'Alet. Alors le plan d'Alet est préparé dès la fin des années 30, 1930. Son but était de provoquer le départ forcé d'un maximum d'Arabes des territoires contrôlés par les forces sionistes. C'est ainsi qu'à la veille de l'entrée en Palestine de contingents armés de 5 États arabes, le 15 mai 1948, près de 400 000 Palestiniens ont déjà été expulsés du territoire alors contrôlé par les groupes armés sionistes, où l'on fuit, terrorisé par des massacres commis par ces mêmes groupes. À la fin des combats, c'est-à-dire en juillet 1949, ce sont entre 750 000 et 800 000 Palestiniens, soit environ 80% de ceux qui habitaient le territoire désormais sous le contrôle de l'État d'Israël, c'est-à-dire 78% de la Palestine, donc plus 56 mais 78, qui auront été chassés et empêchés de revenir. Et ceux qui n'ont pas quitté ce territoire ou qui ont réussi à y revenir clandestinement ne constituent alors plus que 17% de la population du dit État juif qui se nomme à partir de ce moment-là Israël. Dans les années suivantes, ces exilés seront remplacés par des centaines de milliers de Juifs venus essentiellement d'Europe et surtout du monde arabe. La fin des combats, donc juillet 1949, ne signifie pas celle des expulsions. Non seulement l'armée israélienne traque et tue ceux des exilés qui tentent de revenir dans leur foyer, mais elle organise de nouvelles expulsions. C'est ainsi que plusieurs milliers d'habitants d'Al-Majdal, renommés Ashkelon par les Israéliens, seront expulsés du territoire désormais devenu Israël entre décembre 1949 et l'automne 1950. Entre 1949 et 1951, 17 000 Bédouins sont chassés du désert du Nakab, en hébreu Negev, vers la Jordanie et l'Égypte. L'historien israélien Ilan Pappé mentionne des expulsions massives jusqu'en 1953. En 1956, le général Yitzhak Rabin, futur Premier ministre, fera encore expulser 700 personnes vers la Syrie. Et en 1962, 750 membres de la tribu bédouine d'Al-Washli seront embarqués dans des camions et conduits hors du pays. Je fais encore un saut dans le temps. En juin 1967, l'armée israélienne conquiert le reste de la Palestine. C'est ce qu'on a appelé la guerre des six jours. Il conquiert aussi le plateau syrien du Golan et le désert égyptien du Sinaï. Seul ce dernier sera évacué et rendu à l'Égypte par étapes entre 1979 et 1982, suite à un traité de paix entre l'Égypte et Israël. Cette conquête de l'ensemble de la Palestine s'accompagne à nouveau d'un nettoyage ethnique des populations arabes de ces territoires, mais qui ne réussira qu'en partie. Il sera quasi total sur le plateau du Golan, 110 000 expulsés sur un total de moins de 120 000 habitants, mais les Israéliens ne réussiront à forcer à l'exil que, entre guillemets, que 100 000 exilés de 1948, donc ceux qui avaient déjà été exilés vers la Cisjordanie ou Gaza, et 200 000 habitants non exilés de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie. Donc ça fait 300 000 personnes. mais ce n'est pas la majorité. Concernant la bande de Gaza, sur un total de 385 000 habitants, moins de 50 000 fuiront, seront chassés ou incités financièrement à partir. Même si depuis lors et continuellement, des milliers de Palestiniens seront encore contraints à l'exil par les autorités israéliennes sous divers prétextes, sur l'ensemble du territoire de la Palestine, désormais entièrement sous domination israélienne, la proportion de Palestiniens ne cessera d'augmenter au point de dépasser aujourd'hui légèrement la population juive. À défaut de pouvoir les expulser totalement de leur pays, les dirigeants israéliens refusent d'accorder des droits politiques aux Palestiniens des territoires conquis depuis 1967, même à ceux de Jérusalem-Est, territoire pourtant annexé à Israël, et il leur rend la vie quotidienne de plus en plus insupportable. En Cisjordanie, le morcellement du territoire consécutif aux accords d'Oslo de 1993, la poursuite de l'occupation militaire et de la colonisation, les destructions de bâtiments construits « entre guillemets illégalement », les déplacements forcés de Palestiniens au sein des territoires occupés et les entraves quotidiennes mises à leur circulation rendent la vie économique et sociale de plus en plus pénible. À quoi s'ajoute la répression impitoyable, implacable de toute forme de résistance et l'agressivité de plus en plus meurtrière et impunie des colons. Tout cela va pousser une petite minorité d'habitants qui en ont la possibilité à s'expatrier. Après la prise du pouvoir par le Hamas à Gaza en 2007, les dirigeants israéliens décrètent que ce territoire, déjà sous blocus hermétique depuis le départ des colons juifs en 2005, devient, je cite, « une entité hostile ». Les Gazaouis sont dès lors sévèrement rationnés en biens aussi indispensables que la nourriture, l'eau potable, les matériaux de construction, les équipements médicaux, les médicaments, les carburants et l'électricité. Ils seront aussi régulièrement victimes de nombreux et meurtriers bombardements ainsi que d'incursions militaires terrestres. En 2012, l'ONU publie un rapport prédisant que si un tel blocus se poursuit, la vie sera devenue impossible dans la bande de Gaza en 2020. Mais en 2017, Robert Pieper, coordinateur des affaires humanitaires pour le territoire palestinien occupé, affirme dans un autre rapport que les conditions de vie à Gaza sont déjà devenues invivables. 90% des entreprises ont cessé leurs activités. Plus de 60% des jeunes sont sans emploi. Plus de 96% de l'eau est impropre à la consommation. La distribution d'électricité oscille entre 4 et 8 heures par jour. Pour survivre, 80% de la population dépend désormais de l'aide humanitaire fournie par l'ONU ou par des organisations non gouvernementales. L'opération armée menée par le Hamas le 7 octobre 2023 a servi de prétexte au gouvernement d'extrême droite parvenu au pouvoir en décembre 2022 pour mettre en œuvre un plan visant à terme à vider la bande de Gaza de ses habitants palestiniens. Le génocide en cours, même s'il fait un nombre énorme de victimes, ne vise pas à massacrer ou à faire mourir de faim l'ensemble de la population de ce territoire. Il est l'épouvantable moyen utilisé pour provoquer le départ massif des survivants. Le Premier ministre israélien ne s'en cache absolument pas. Tout au long du combat que les dirigeants sionistes ont mené pour concrétiser leur projet d'établir puis de maintenir un État juif en Palestine, ils ont donc mis en pratique, à grande ou à petite échelle selon les circonstances, ce crime contre l'humanité que constitue le nettoyage ethnique des Palestiniens. Depuis octobre 2023, cette obsession de vider les territoires sous le contrôle d'Israël d'un maximum d'Arabes les a conduits à Gaza à perpétrer le pire des crimes de masse, un génocide dont ils espèrent que les survivants finiront par se résigner à l'exil.
Merci beaucoup. Voilà, c'était Michel Stachewski. Donc, on va encore faire une tentative de rejoindre Erol. On y va. Allô, bonjour, Erol. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est très dommage. Ah non, je vais le rappeler encore une fois.
On va essayer encore une fois.
Oui. Allô, Erol?
Allez.
Et encore une fois. Allô, Erol, est-ce que tu nous entends? Je pense que ce ne sera pas pour aujourd'hui.
Ah, c'est dommage, ça fait longtemps que j'ai parlé avec Erol.
Oui. Oui, mais ça, c'est sur les bateaux, ça peut arriver. Ils n'ont pas toujours une bonne connexion, donc ça, ça dépend un peu. Bon, espérons que demain ou un autre jour, ça va mieux marcher. Donc voilà, donc du coup, c'est la fin de notre émission. Peut-être qu'on vous verra demain, à 19h, à la Bourse, je n'en sais rien. Ou bien dimanche, à la manifestation contre l'impérialisme occidental. Ou bien au 1er mai, évidemment.
Oui, pas seulement le 1er mai, donc il y a le 1er mai, il y a maintenant le 3e mai, mais il y a aussi, je pense que c'est le 18 mai pour la Palestine. Attends, je vais double-checker. Et il y a la grande manif aussi le 14 juin,
oui.
Contre la militarisation.
Ouais, ah, Erol demande de faire encore un essai, donc on va encore faire un essai. Allô Erol, est-ce que tu m'entends? Non, ça ne marche pas. Bon voilà, donc il me reste que de vous dire au revoir et à demain.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM. À Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.